Radio Prague, les informations.
Les Tchèques peuvent déposer leur demande de visa pour le Canada à Prague. Le Premier ministre Jan Fischer n'entend pas poursuivre sa carrière politique après la législative. La Slovaquie extrade un ressortissant slovaque à la Tchéquie. À partir de ce lundi, les Tchèques peuvent obtenir leur visa de tourisme pour se rendre au Canada à Prague. Depuis la décision prise en juillet par Ottawa de réintroduire l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques, ceux-ci étaient contraints de se rendre à Vienne, en Autriche, où se trouvait l'ambassade du Canada la plus proche. Un département spécial a donc été ouvert à Prague, où les Tchèques peuvent désormais déposer une demande personnellement par voie postale ou en passant par les services des agences de voyage. Interrogé sur la télévision tchèque dimanche midi, le Premier ministre Jan Fischer, qui dirige le gouvernement d'experts suite à la motion de censure votée en mars dernier contre la coalition de Mirek Topolánek, a confirmé qu'il n'entendait pas intégrer de parti politique. Jan Fischer, qui devait rester en fonction jusqu'aux élections législatives en juin prochain, a indiqué qu'il voyait plutôt son avenir dans une mission spécifique en République tchèque ou dans une institution à l'étranger. Ce lundi, la Slovaquie a extradé à la République tchèque un ressortissant slovaque accusé de meurtre. Il s'agit de Tomáš Philadelphie, qui a été récemment inculpé d'assassinat d'une femme de 58 ans dans la commune de Boleradice en Moravie. Tomáš Philadelphie a commis son crime en République tchèque et s'est enfui en Slovaquie. Il risque une peine allant de 15 ans de prison à la perpétuité. Jiří Paroubek, le leader du Parti social-démocrate, principale formation de gauche du pays, a annoncé dimanche qu'il entendait réduire l'année prochaine le déficit des finances publiques, entre autres, en réduisant le nombre de voyages à l'étranger des parlementaires, et notamment ceux qui ne servent pas aux intérêts de ce qu'il a appelé la diplomatie économique. Jiří Paroubek a expliqué que les économies nécessaires devaient être réalisées au niveau des dépenses de l'État et non pas aux dépens de la population. De son côté, le Premier ministre Jan Fischer a qualifié de démontage du budget de l'État récemment adopté les projets des partis de gauche. Selon le chef du gouvernement, si ces projets étaient adoptés, ils entraîneraient une augmentation de la dette des finances publiques de l'ordre de 20 milliards de couronnes. Jan Fischer a indiqué qu'il entendait appeler à une responsabilité renforcée des députés avant les votes prévus en janvier. La social-démocratie et les communistes prévoient notamment de verser une 13e pension de retraite ou de maintenir en l'état actuel le montant de l'indemnisation du congé maternité. Météo. Ce lundi, fête de toutes les Nathalie, selon le calendrier tchèque. Le ciel en Tchéquie est nuageux à clair. Les températures du Yirnu s'échelonnent de moins 8 à moins 4 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Les citoyens tchèques peuvent enfin faire leur demande de visa canadien à Prague. Nous vous expliquerons pourquoi. 4 rhinocéros blancs du Nord ont été déplacés du jardin zoologique de Dvůr Králové vers l'Afrique. Tel sera le deuxième thème de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Invitation enfin à une exposition de photos qui retrace la période de 1948 en 1989 en Tchécoslovaquie. Depuis le 13 juillet dernier, les citoyens tchèques sont obligés d'avoir un visa s'ils veulent se rendre au Canada. La réintroduction de l'obligation de visa par Ottawa avait déplu à Prague, d'autant plus que les demandes de visa devaient être déposées à l'ambassade canadienne en Autriche. Depuis ce lundi, les Tchèques peuvent s'adresser directement à l'ambassade pragoise. Alexis Rosenzweig pour plus de détails.
Cela fait environ un an que les relations tchéco-canadiennes souffrent de ce problème de réintroduction de visa obligatoire. Après avoir longtemps hésité, le gouvernement canadien avait, invoquant le trop grand nombre de demandes d'asile déposées en majorité par des Roms tchèques, avait pris la même décision que quelques années plus tôt pour les mêmes raisons. La fin de la possibilité pour les ressortissants tchèques d'entrer sur le territoire canadien sans visa. Difficile à avaler pour Prague qui s'efforce d'impliquer ses partenaires européens pour faire pression sur Ottawa. Pour l'instant, sans grand succès, la Slovaque Jana Bendová est députée européenne.
Nous avons une politique étrangère commune. Il est donc tout à fait naturel que si un pays se voit imposer l'obligation de visa par un pays tiers, alors les autres États membres devraient prendre sa défense.
Seule consolation depuis ce lundi, la possibilité pour les Tchèques de déposer leur demande de visa à Prague et non plus à Vienne comme ils devaient le faire depuis cet été. Roman Škrabanek est le président de l'Association tchèque des agences de voyage, on l'écoute.
Pour nous, c'est une bonne nouvelle que le Canada, sous une certaine pression, ait enfin ouvert un service de visa à Prague. La réintroduction des visas obligatoires a fait baisser le nombre de touristes tchèques au Canada d'environ un tiers. L'année dernière, près de 30 000 Tchèques s'y étaient rendus, donc la baisse est relativement importante.
Et pour certains, l'ouverture d'un service de visa à Prague est liée aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver qui commencent le 12 février prochain. Plusieurs hommes politiques tchèques, dont le chef de l'État, Václav Klaus, ont fait savoir qu'ils ne se rendront pas aux JO en signe de protestation contre la réintroduction de l'obligation de visa.
Opération sauvetage, c'est ainsi que l'on pourrait appeler le transport de 4 rhinocéros blancs du Nord depuis le jardin zoologique de Dvůr Králové en République tchèque vers le Kenya, qui s'est terminé ce dimanche et qui a été très attentivement suivi par les médias et par le public tchèque. L'objectif de cette opération est de sauver cette espèce animale rare dont l'existence est gravement menacée. D'après les zoologues, en déplaçant les 4 rhinocéros blancs du Nord vers leur milieu africain naturel, il s'agit de favoriser leur reproduction qui ne réussit pas dans un milieu artificiel. À l'heure actuelle, on trouve outre les 6 rhinocéros tchèques, car il y en a encore 2 qui restent dans le pays, 2 autres à San Diego aux États-Unis et 3 qui, d'après de récentes informations, vivraient librement au Soudan. On écoute Jana Myslevečková, directrice du zoo de Dvůr Králové.
Si l'on est vraiment ainsi, et si l'on arrive à les mettre tous ensemble, ce sera un miracle. La chance de sauver ces animaux merveilleux augmenterait alors incroyablement.
En l'espace de 24 heures, les 4 rhinocéros ont parcouru près de 6000 km. Transportés en avion, dans des boxes spécialement aménagées et sous l'effet de sédatifs légers, et ensuite en camion, ils se retrouvent à présent dans la réserve kenyane Olpejeta, qui se spécialise depuis la fin des années 80 dans le sauvetage des rhinocéros. L'opération réalisée a eu néanmoins ses adversaires, les membres de l'association Safari Archa 2007, qui ont ouvertement protesté contre cette démarche, auraient privilégié une insémination artificielle. Le retour de captivité de ces quelques derniers exemples d'une population menacée au cœur de la nature africaine représente une expérience peu commune. Il a pu bénéficier d'un soutien financier de plusieurs associations mondiales chargées de protection des espèces rares. Jusqu'au 3 janvier, la maison à la cloche de pierre sur la place de la Vieille Ville propose une exposition photo intitulée « Tenkrát na východě, soit « Il était une fois dans l'Est », variation sur le titre du célèbre western Anna Kubiška.
Les Tchèques vus par les photographes entre 1948 et 1989. Les dizaines de photographies présentées à la maison à la cloche de pierre sont une plongée dans près d'un demi-siècle de vie quotidienne sous le communisme. Vladimir Birgus, un des commissaires de l'exposition, est spécialiste de la photographie.
Cette exposition n'a pas pour ambition d'être une rétrospective de cette époque, ni même de montrer l'évolution de la photographie tchèque. C'est plutôt le résultat de notre sélection subjective. Nous présentons des auteurs aujourd'hui très connus, comme Josef Koudelka, Jindřich Streit, mais surtout des photographes oubliés ou complètement inconnus. Nous avons aussi des photos amateurs et des photos utilisées comme publicité, ou même des photos des archives de la police politique qui surveillaient les gens. Nous avons enfin des photos de jeunes artistes qui réagissent à l'iconographie communiste.
Les photographies présentées reflètent ainsi des activités et des situations aujourd'hui disparues. Les spartakiades, les longues files d'attente devant les magasins d'alimentation, le service militaire obligatoire, mais aussi les traditions encore bien vivantes à la campagne, les joies et des boires ordinaires des gens ordinaires. Vladimir Birkus.
Dans les plus grandes salles, là où c'était possible, nous avons essayé de montrer la vie officielle, c'est-à-dire les différentes fêtes communistes. Nous la mettons en parallèle avec des photos de la vie quotidienne, où l'on voit comme les gens trouvaient refuge dans la sphère intime et dans les chata, ces maisonnettes à la campagne.
Après le coup de Prague en 1948, la photographie tchèque a changé radicalement. Les photographes doivent alors rejoindre des coopératives ou une union regroupant les artistes. De nombreux magazines disparaissent et la censure touche également la profession. Le thème des photos suit l'air du temps, réalisme socialiste et optimisme à tout craint que doivent refléter les clichés. Cela n'empêchera pas de nombreux artistes de créer comme bon leur semble, à l'insu et à contre-courant du nouveau style autorisé. De cette génération est issu Josef Koudelka, à qui l'on devra plus tard les très belles et tragiques photos de l'invasion des troupes du pacte de Varsovie en 1968. L'exposition « Il était une fois dans l'Est » est à voir jusqu'au 3 janvier à la Maison à la Cloche de Pierre, place de la Vieille Ville à Prague.
C'est tout dans ces faits et événements en République tchèque. Notre programme se poursuit par son agenda sportif et on terminera en musique.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive au sommaire de laquelle figurent notamment du football mais aussi du cyclocross. En football tout d'abord, le Sparta et le Slavia de Prague, les deux clubs tchèques en lice en Ligue Europa, ont disputé leur dernier match dans la compétition la semaine dernière. Le Sparta, qui avait encore une chance de qualification, a été lourdement battu sur sa pelouse par les Danois du FC Copenhague 3-0, tandis que le Slavia, déjà éliminé, a été défait à Lille 3-1. Comme la saison dernière, il n'y aura donc pas de club tchèque en Coupe d'Europe au printemps prochain. Et puis nous terminerons avec un mot de cyclocross grâce à un nouveau podium obtenu en Belgique dimanche. Zdeněk Štybar occupe en effet désormais la première place ex aequo du classement général de la Coupe du Monde. Forcément prometteur à un mois des championnats du monde organisés en République tchèque. C'est décidément une année très sombre et même noire qu'a connu le football tchèque en 2009. Non seulement l'équipe nationale ne s'est pas qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais ses clubs ne vont guère mieux, ils se portent même sans aucun doute encore plus mal. Malgré la réforme introduite cette saison par l'UEFA en Ligue des Champions, réforme censée permettre aux équipes des petits pays d'atteindre plus facilement la phase de groupe, ni le Slavia ni le Sparta de Prague ne sont parvenus à passer le cap du troisième tour préliminaire. Le Slavia, champion de République tchèque en titre, a même été éliminé par les Moldaves du FC Tiraspol. Malgré tout, le Slavia et le Sparta ont été les deux seuls clubs tchèques à décrocher leur place pour la phase de poule de la nouvelle Ligue Europa, formule revisitée de l'ancienne Coupe UEFA. Mais là non plus, ni l'un ni l'autre n'ont guère fait illusion, même si jusqu'à la sixième et dernière journée, le Sparta a conservé toutes ses chances de qualification. Pour atteindre les 16e de finale, les Pragois avaient toutefois l'obligation de battre à domicile le FC Copenhague. Mais après à peine une demi-heure de jeu, l'affaire était déjà entendue, les Danois menant 2-0 grâce à deux buts de leur attaquant sénégalais, Dam Endoy. Finalement, Copenhague inscrivait encore un troisième but sur penalty en deuxième mi-temps, donnant ainsi au score final une ampleur plus conforme à l'écart abyssal de niveau qui existait entre les deux équipes mercredi soir. En conférence de presse d'après match, l'entraîneur du Sparta, Josef Kovanec, n'a d'ailleurs pas épargné ses joueurs.
Ça a été un désastre total.
Personne n'a su rester concentré dès les premières minutes de jeu et nous en avons payé la note avec ces deux premiers buts encaissés. Ces deux buts, nous leur avons offert sur un plateau, je pense notamment au premier avec une absence grotesque de marquage sur un coup de pied arrêté. Ce sont pourtant des situations de jeu triviales. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Le gros problème ce soir est que les consignes tactiques n'ont pas du tout été respectées. L'équipe n'a pas su faire face à l'enjeu du match. Avec un bilan final de 2 victoires, 1 nul et 3 défaites, le Sparta a donc terminé à la 3e place de son groupe, derrière les Néerlandais du PSV Eindhoven et le FC Copenhague, et devant les Roumains du FC Cluj. Placé dans un groupe nettement plus relevé avec les Espagnols du FC Valence, les Français de Lille et les Italiens du FC Genoa, le Slavia de Prague a lui terminé à la dernière place de sa poule avec 3 matchs nuls, 3 défaites et aucune victoire. Jeudi, le Slavia affrontait donc le LOSC pour l'honneur et avec pour ambition de faire oublier le 5-1 encaissé face aux nordistes lors du premier match à Prague. Mais face à des Lillois qui avaient besoin de s'imposer pour assurer leur qualification, le Slavia s'est de nouveau incliné 3-1. Même s'ils n'ont pas démérité et ont offert un visage plutôt sympathique dans le jeu, les Pragois pouvaient toutefois eux aussi regretter les 2 premiers buts encaissés en première période suite à 2 erreurs de défense. C'est d'ailleurs le constat que faisait à l'issue du match l'attaquant Stanislav Volček, auteur du but de la réduction du score. Malheureusement, nous avons fait trop d'erreurs individuelles. C'est dommage parce que ce ne sont pas des buts pris après que l'adversaire nous ait baladé. Face à une équipe expérimentée du niveau de Lille, c'est le genre de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Lille avait déjà profité de nos erreurs à l'aller et depuis cette victoire à Prague, leur jeu n'a cessé de s'améliorer. Ils sont très forts offensivement, mais les buts ce soir, nous les sommes mis tous. Dans le camp lillois, on retenait surtout la victoire et la qualification en compagnie du FC Valence. Une victoire d'autant plus satisfaisante, selon l'entraîneur Rudy Garcia, qu'elle a été obtenue face à une équipe du Slavia qui n'est pas venue faire du tourisme dans le Nord et n'a jamais rendu les armes.
Oui, une grande satisfaction. On voulait finir le travail ce soir et on l'a fait. On savait que ce serait difficile, que cette équipe du Slavia, qui avait beaucoup de fraîcheur parce qu'elle n'a pas joué depuis 15 jours, nous opposerait une résistance forte. Mais voilà, on est ravis parce que l'objectif qui nous avait été assigné, c'était d'atteindre les poules. Et quand on a vu la composition de cette poule avec Valencia et le Genoa notamment, on s'est dit que sortir de cette poule, ça serait quand même une grosse performance.
Rudy Garcia estimait également que les 2 victoires acquises aux dépens du Slavia, et notamment celle obtenue à Prague, ont été la clé de la qualification lilloise.
On a fait une grosse performance à Prague. Je crois que ce soir, le match du Slavia montre... que cette équipe valait mieux que ce qu'elle a montré à l'aller, ou que peut-être on l'a tellement fait déjouer qu'on l'a mise à mal, parce que ni Valence ni Gênes n'ont réussi à gagner à Prague. Et je pense que la victoire à Prague est le match qui nous qualifie. Voilà, puisqu'on a fait un très bon parcours à domicile, 2 victoires 1 nul. Alors on finit 2e de la poule, mais quelque part c'est logique. Valence est quand même 3e du championnat espagnol et au-dessus du lot.
Et tandis que le LOSC affrontera les Turcs de Fenerbahçe en 16e de finale, la Ligue Europa se poursuivra donc sans plus aucun club tchèque, une absence au printemps à laquelle le public commence malheureusement à s'habituer. Et puis on termine avec un mot de cyclocross. En terminant 2e de la 6e manche de la Coupe du Monde dimanche à Kalmthout dans les Flandres belges, Zdeněk Štybar est non seulement monté sur le podium pour la 6e fois, mais il a également rejoint Niels Albert en tête du classement général. Le Belge ne devance le coureur tchèque qu'au nombre de victoires. Sur un parcours recouvert d'une 15 cm de neige, Zdeněk Štybar a longtemps fait la course en tête avant d'être rattrapé par Niels Albert et Sven Nys dans le dernier tour. Finalement, c'est Sven Nys qui s'est imposé, le Belge devançant respectivement de 3 et 4 secondes Štybar et Albert. 3 hommes qui feront figure de grands favoris lors des championnats du monde de Tabor en Bohême du Sud fin janvier, le grand rendez-vous de la saison auquel Zdeněk Štybar entend bien se présenter comme leader de la Coupe du Monde.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
C'est à deux reprises que le public de Prague a eu l'occasion d'entendre vendredi et dimanche la voix de la mezzo-soprano tchèque Magdalena Kožená. Cette fois-ci, elle a choisi pour son récital des lieds de Gustav Mahler et aussi trois compositeurs français, Berlioz, Massenet et Bizet. C'était une fête de la sensibilité et de l'intensité dramatique. Il est évident que Magdalena Kožená cherche toujours à élargir ses possibilités d'expression et de mettre en relief de plus en plus l'âme et le caractère des personnages qu'elle incarne. Sa voix, un instrument très efficace, lui permet de donner des traits tout à fait individuels aux héroïnes d'opéra. Ce n'est pas une grande voix, mais Magdalena Kožená, qui l'a toujours utilisée avec beaucoup d'intelligence, sait d'en tirer le maximum. Lors de son récital pragois, elle a su exprimer avec beaucoup de force la fascination par la mort dans l'air de Cléopâtre, tiré de l'opéra du même nom de Jules Massenet, et les accents tragiques dans le célèbre air de Marguerite de la Damnation de Faust de Berlioz. Son timbre inimitable a fait merveille aussi dans les lieds de Gustav Mahler. Dommage que l'orchestre Prague Philharmonia, sous la direction de Kaspar Zender, n'ait pas eu plus de retenue et de discrétion, car la riche orchestration mahlérienne a couvert à plusieurs reprises la voix de la chanteuse. La dernière partie de la soirée a été consacrée à Carmen de Bizet. Et une fois de plus, Magdalena Kožená a su marquer le personnage de cette cigane espagnole par le sceau de son talent. Cette Carmen blonde est aussi séduisante que dangereuse, et l'auditeur ne doute pas un seul instant que son amour est un jeu de hasard qui frôle la mort. Dans le célèbre air « L'étringue des sistres teintés », la chanteuse a déployé en plus un tempérament de feu et une admirable agilité vocale. C'est grâce à un enregistrement réalisé en 2003 pour le label Deutsche Grammophon que nous pouvons nous rappeler cette performance exceptionnelle.
Oh,
Merci d'avoir suivi cette émission en français de Radio Prague. Chers amis, je vous dis au revoir. À demain. Naschladano.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la Radiodifusión Checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 10:30 UTC transmitimos para el Caribe y Sudamérica por los 9.955 kHz a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC transmitimos para España por los 11.600 y 13.580 kHz. A las 19 UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 y los 9.430 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y los 9.430 kHz, y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 y los 9.435 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930, los 7.345 y los 7.420 kHz. Esta última frecuencia a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A la 1.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 6.200 y 7.000.